La première épître de Paul aux Colossiens, à notre Nouveau Testament, la page 227, Colossiens 1, les versets 24 à 29. Avant d'écouter cette lecture, Colossiens 1, 24 à 29, nous prions d'abord. Bon Père, nous ouvrons ta sainte parole. Donne-nous, nous t'en prions, un esprit de sagesse et de révélation pour que nous te connaissions mieux à l'écoute de ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle espérance s'attache à ton appel. Quelle est la glorieuse richesse de ton héritage et quelle est la grandeur surabondante de ta puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de ta force. Ô Seigneur, agis, nous t'en supplions, au-dedans de chacun de nous. Agis au-dedans de nous pour que nos vies soient transformées à ta gloire. Nous te remercions ensemble pour ta parole de vie puissante qui parcourt les siècles, qui parcourt la terre, et qui fait du bien à ton peuple. Reçois nos louanges par Jésus-Christ. Amen. Écoutons cette lecture en Colossiens 1, les versets 24 à 29. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. À ce moment-ci de l'année, des millions de chrétiens célèbrent la grande fête de la Réforme, c'est-à-dire ce grand mouvement de revitalisation du christianisme suscité par Dieu. Un des éléments clés de cette grande réforme a été, en quelque sorte, la redécouverte de la place suprême de Jésus-Christ dans la vie de l'Église, dans la vie de son peuple. Avant la Réforme, Jésus-Christ était comme perdu, noyé, embrouillé dans toute une série de saints, de médiateurs de toutes sortes ou de personnages. Et les réformateurs, guidés par Dieu et par la vérité de la parole de Dieu, ont pu redonner au Fils de Dieu la place suprême qu'il doit occuper dans la vie de son peuple. Un des slogans de la réforme, c'était le Christ seul. Le Christ est le seul sauveur. C'était un des slogans de la réforme. Et dans cette redécouverte de Jésus-Christ à l'époque de la réforme, l'épître de Paul aux Colossiens a joué un très grand rôle. Nous continuons ce matin de regarder ensemble attentivement cette épître passionnante qui a comme grand thème la place prééminente de Jésus-Christ dans la création et dans la rédemption. Nous sommes rendus au verset 24 à 29 du chapitre 1. Nous avions vu au verset précédent les versets 19 à 23, qu'il a plu à Dieu de nous réconcilier avec lui par la mort de son Fils. Nous verrons ce matin dans les versets 24 à 29 qu'il a plu à l'apôtre Paul de proclamer cette grande réconciliation de Dieu avec les hommes. Le verset 24 commence par les mots « Je me réjouis ». Dieu se réjouit de réconcilier les pécheurs avec lui et l'apôtre Paul se réjouit de proclamer cette grande nouvelle de la réconciliation à ceux qui doivent hériter du salut. Est-ce que c'est facile pour l'apôtre Paul de jouer ce rôle? On aurait pu penser que oui, c'est tellement une grande nouvelle que Dieu se réconcilie avec les pécheurs. Une bonne nouvelle, une nouvelle réjouissante, une nouvelle positive, une nouvelle pleine de grâce. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit relativement facile pour lui d'aller partout, de proclamer cette bonne nouvelle, mais ce n'est pas le cas. L'apôtre Paul rencontre beaucoup d'opposition dans son apostolat. Et c'est pour ça qu'il parle de ses souffrances. Verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et je supplie dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » Il est nécessaire que nous prenions un peu de temps ce matin pour expliquer comme il faut ce dont il est question dans ce verset 24, parce qu'au cours de l'histoire, il y a eu des mauvaises interprétations de cette parole de Paul qui ont conduit à des hérésies. De quelle souffrance, au juste, est-ce que l'apôtre Paul parle ici dans ce verset? Il ne parle certainement pas de souffrances expiatoires par lesquelles lui-même aurait pu procurer le salut aux Colossiens. L'apôtre Paul n'est pas un messie numéro 2. Il n'est pas un co-messie. Il n'a pas été appelé par Dieu pour donner sa vie, pour expier, porter le péché des autres. Ce n'est pas le cas. Il ne souffre pas à la place des Colossiens dans le sens qu'il paierait la rançon pour leur péché. Nous avions vu dans les versets 12, 13, 14 que le Christ Jésus était celui qui nous avait apporté la rédemption, c'était une rançon pour notre péché. Donc c'est Jésus qui fait cette grande œuvre-là. Psaume 49, verset 8, dit « Les hommes ne peuvent pas se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. » Donc Jésus-Christ seul, le Fils de Dieu et le Messie, le Sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui seul, dans les versets 20 à 22, Paul avait dit que c'est le sang de la croix de Jésus, la mort dans le corps de sa chair, qui nous procure la réconciliation. La réconciliation, elle n'est pas pour nous en l'apôtre Paul, elle est en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être réconciliés avec Dieu autrement que par la mort de son Fils sur la croix. Tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ dans la foi sont bannis de la compagnie de Dieu. À 1 Corinthiens 1, 13, Paul dit, « Paul a-t-il été crucifié pour vous? » Il y avait de la bisbille, la chicane, des querelles, la Corinthe, parmi les chrétiens, certains disaient, « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Pierre, etc. » Puis Paul dit, « Paul a-t-il été crucifié pour vous? » La réponse est non, bien sûr que non, jamais de la vie. C'est le Christ Jésus qui a été mis à mort pour vos péchés, ce n'est pas moi, l'apôtre Paul. Je supplie dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. Est-ce que les souffrances de notre Sauveur ont été en quelque part insuffisantes, défectueuses? Est-ce que l'apôtre Paul considère que, d'une façon ou d'une autre, le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas accompli tout ce qui devait être accompli pour la rédemption des élus de Dieu et que lui devait faire quelque chose pour expier ou compléter? Non. Non, pas du tout. Jésus a dit à son Père, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus n'a pas dit, « Père, j'ai presque achevé ce que tu m'as donné à faire, puis je laisse le reste pour que Paul l'accomplisse. » Jésus a dit du haut de la croix, « Tout est accompli. » Il n'a pas dit, « Tout est presque accompli, puis je vais laisser Paul finir le reste. Mais il a tout accompli, l'œuvre de la rédemption, parfaitement. Rien ne manque, assurément, aux souffrances rédemptrices qui sauvent le peuple de Dieu. Alors, lorsque Paul écrit « Je supplie dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église », il ne prétend certainement pas pouvoir lui-même apporter le salut aux gens qui y l'écrit. Écoutez bien ce que Paul dit à Timothée, ça va nous aider. « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. » 2 Timothée 2, 10. Paul dit « Le salut, il est en Christ Jésus. » Il n'est pas en moi, Paul. Mais moi, Paul, je suis chargé par Dieu, c'est ma vocation, de répandre, de parler du Sauveur, de proclamer que le salut se trouve en Jésus-Christ, de dire à tous que la rédemption, elle est dans le Fils de Dieu. Et lorsque je fais ce travail, je rencontre toutes sortes de souffrances. Il dit, je supporte tout, je suis prêt à tout supporter pour faire ma mission de proclamer que le salut se trouve dans le Christ Jésus. Je prêche la rédemption, dit Paul en d'autres mots. Moi, je ne suis pas le rédempteur. Je proclame la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et en exerçant cette responsabilité, je rencontre beaucoup de souffrances, de difficultés, d'obstacles. Il y en a qui s'y opposent. Et il y a des persécutions. J'ai des craintes au-dedans. Des luttes au dehors, le diable est là. Il rôde pour dévorer, il fait du trouble. Et par-dessus tout, à deux reprises en Colossiens 4, il dit « Je suis dans des chaînes, je suis en prison. » C'en était ça, une souffrance qu'il subissait à cause de son ministère d'apôtre, de proclamateur, d'annonciateur de la bonne nouvelle de Dieu. Il avait des souffrances, et c'est de ça qu'il parle ici. Ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église, c'est que Christ soit proclamé, connu, servi, adoré partout. Et Paul, c'est sa mission de proclamer cette bonne nouvelle. Il rencontre de l'opposition. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Maintenant, il fait référence à son emprisonnement. En partie. Comment peut-on se réjouir de souffrir? L'apôtre Paul, lui, se réjouissait dans ses souffrances parce que pour lui, il n'y avait rien au monde de plus précieux que le Sauveur et que la bonne nouvelle du salut. Rien de plus précieux que ça. Alors, il voulait la communiquer à tout le monde. Il était prêt à souffrir pour le faire. Nous, dans notre estimation de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle, est-ce que nous estimons la bonne nouvelle et le Seigneur Jésus lui-même tellement ce qui est le plus précieux au monde que nous sommes prêts à subir toutes sortes de souffrances pour proclamer cette bonne nouvelle-là? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplie dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. Paul poursuit au verset 25 et dit « C'est d'elle que je suis devenu serviteur. » Elle, c'est l'Église. Au verset 23, il nous avait dit « Je suis un serviteur de l'Évangile. » Au verset 24, il nous dit qu'il est serviteur de l'Église. Et quand on connaît toute l'histoire de la vie de l'apôtre Paul, c'est quelque chose qui est toujours bouleversant pour nous. Parce qu'avant d'être le serviteur de l'Église, qu'est-ce qu'il était? Il était l'ennemi numéro un de l'Église. Il ravageait l'Église, il la détruisait. Je vous rappelle les versets suivants du livre des Actes des Apôtres. Saul, c'était avant qu'il devienne Paul, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église. Saul ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. En Galates 1, 13, Paul lui-même dit « Autrefois, je persécutais à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. » Lui qui autrefois travaillait avec le plus grand fanatisme pour détruire l'Église, le voici, serviteur de l'Église, prêt à subir toutes les souffrances pour le bien de l'Église. Voyez-vous la grâce de Dieu à l'œuvre? Que c'est beau! C'est de toute beauté de voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans la vie de Saul pour en faire devenir Paul. C'est merveilleux de voir la grâce de Dieu dans chacune des vies de ses enfants, alors que Dieu prend nos vies toutes misérables et croches et nous transforme en étant remplis d'espérance. C'est de toute beauté que Dieu soit loué pour son œuvre dans la vie de ceux qui l'appellent. L'apôtre Paul n'a pas créé sa propre job. Il a reçu un appel de Dieu. Nous voyons au verset 25 à 27 ce qu'il dit. « J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Paul utilise ici le mot « mystère » qui est utilisé 28 fois dans le Nouveau Testament. Il faut faire un peu attention avec ce mot-là, parce que dans la pensée populaire aujourd'hui, si on parle d'un mystère, on dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On dit « Ah, cette affaire-là, c'est un vrai mystère, c'est incompréhensible, personne ne peut rien y comprendre. » Le sens du mot « mystère » ici et dans plusieurs autres passages est un peu différent, mais un mystère, c'est quelque chose qui était tenu ou gardé secret pendant un certain temps pour certaines raisons et que Dieu, à un moment donné, révèle, et qu'il dévoile et qu'il explique pour le bien de son peuple. Paul parle d'une vérité qui est restée longtemps inconnue ou qui était là, présentée parfois par certains prophètes, mais d'une façon voilée qui là est expliquée avec une plus grande clarté, une plus grande ampleur. Et ce secret, c'est l'inclusion des non-juifs dans la famille de Dieu. Eux aussi ont part aux richesses de l'héritage des chrétiens. Et pour nous aider à comprendre un peu ceci, je vais vous lire Éphésiens 3, 5 à 9, où Paul parle exactement la même chose. Il dit « Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, Créateur de toutes choses. » L'apôtre Paul parle du même sujet, de cette richesse, il dit dans notre texte qu'on vient de lire, la richesse insondable du Christ. Et ici, dans notre verset 27, il dit « La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a plusieurs commentateurs bibliques qui disent que ces mots sont les plus importants de toute l'épître aux Colossiens, qu'ils résument bien le but de l'apôtre Paul ici. Le réformateur Jean Calvin dit « C'est une œuvre admirable de Dieu quand de fragiles vases de terre, l'espérance de la gloire céleste vienne faire sa résidence. » L'espérance de la gloire. Christ en vous, Christ qui vient en vous. Comment est-ce possible? Christ, il est au ciel. Oui, mais il vient en nous par son esprit. Vivre Christ en vous, ça veut dire Christ reçu par la foi. Ça veut dire Christ qui vient vivre par sa puissance et œuvrer en nous. Nous tourner vers Dieu. Œuvrer, besogner au-dedans de nous pour qu'à travers tous les obstacles et toutes les souffrances, nous puissions être habités par l'espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelle parole! Quelle consolation au milieu des épreuves! Il serait souhaitable que nous puissions avoir la même vision, la même compréhension de l'œuvre du Christ Jésus qu'avait l'apôtre Paul. J'imagine l'apôtre Paul, n'oublions pas, il est en prison. Ses mouvements sont limités. Il est enchaîné, il le répète deux fois au chapitre 4. Et pourtant, il réfléchit, il médite, il reçoit la parole de Dieu, il est illuminé par l'Esprit Saint, il a cet horizon, cette vision, cette amplitude dans sa pensée de l'œuvre extraordinaire de Dieu en Jésus-Christ, cette grande rédemption. Parfois, nous sommes trop obnubilés par nous-mêmes, ratatinés sur nous-mêmes. Et nous avons une image, entre parenthèses, du Christ qui est un peu rabougri. Que Dieu nous accorde cette compréhension, cette vision époustouflante de Jésus-Christ, l'espérance de la gloire, qui vit en son peuple. Au verset 28, Paul poursuit, il dit, « C'est lui que nous annonçons. » En avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ. Vous avez noté à l'écoute de ce verset, en trois reprises, les mots « tout homme ». Jésus est pour tout être humain, il n'a pas d'exception, l'Évangile n'est pas réservé à quelques initiés. Tout l'enseignement chrétien doit être communiqué et pertinent et approprié pour tout être humain. Toute la vérité de Dieu pour tout le peuple de Dieu. Paul dit qu'il annonce Jésus-Christ. Lorsqu'il avait été appelé, Dieu lui avait montré à l'avance les souffrances qu'il devra subir dans son ministère d'annonciateur de Jésus-Christ. Il dit aussi qu'il avertit tout homme. Dans Actes 20, 31, il dit « Pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. » Il parle de son séjour à Éphèse. 1 Corinthiens 4, 14, il dit « Je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Il va nous dire plus loin en Colossiens 3, 16, « Avertissez-vous les uns les autres. » C'est aussi quelque chose qui est notre responsabilité, de nous avertir mutuellement, réciproquement les uns les autres. En Romains 15, 14, il dit « Vous êtes capables de vous avertir les uns les autres. » Il nous dit aussi dans notre verset ici qu'il instruit tout homme en toute sagesse. Hein, il communique des informations, des vérités importantes pour guider le peuple de Dieu. Comment ça pourrait aller sur nos routes si les panneaux de signalisation nous indiquaient seulement où la route ne conduit pas? On irait pas. Ce n'est pas très utile. Les panneaux nous disent où la route conduit. Paul avait ce ministère très noble, très grand, très beau, d'expliquer, de communiquer les vérités de la parole de Dieu pour que le peuple de Dieu soit orienté et amené à la bonne destination. Paul ne s'épargnait pas dans ce travail. Il n'était pas paresseux, mais il s'y donnait. Pourquoi? Dans quel but? Regardez. Rendre tout homme parfait en Christ. C'était le but de Paul. Rendre tout homme parfait en Christ. On avait vu au verset 22 que Jésus-Christ va présenter à son Père ses rachetés saints, sans défaut et sans reproche. Et le but de Paul va dans cette direction-là. Le but de Paul dérive de cette grande révélation-là. Il veut amener le peuple de Dieu à la perfection qui est en Jésus-Christ. Il veut amener chaque croyant à la stature parfaite du Christ. Il veut que les croyants ne soient pas toute leur vie indécis, incertains, flottants à tout vent de doctrine, ayant des vies, on dirait, toutes de travers, mais il veut que les enfants de Dieu soient solide dans le Seigneur, qu'il ressemble de plus en plus au Christ Jésus, au Fils de Dieu, qu'il vive à son honneur. Il travaille dans ce sens-là. Et il dit, verset 29, « C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Ce n'est qu'à force de travaux et de combats que l'apôtre Paul pouvait avancer vers ce but. Et lorsque l'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous parle de ses luttes, de ses combats, de son ministère, il prend toujours garde de bien donner la gloire à Dieu. Il ne veut pas qu'une seule goutte de louange lui retombe dessus, mais il veut bien spécifier que c'est par la force de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il peut accomplir un tel travail. Écoutez ce qu'il dit en 1 Corinthiens 15, verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Dans notre verset 29, il dit qu'il combat par la force de Dieu. Pierre écrit en 1 Pierre 4, 11, « Si quelqu'un sert Dieu, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié. » Paul servait Dieu par la force de Dieu, qui agit puissamment en moi. Je vous rappelle au verset 11, Paul avait parlé de la force glorieuse. « Devenez puissant et patient à tous égards par sa force glorieuse. » Et ici, il rappelle que c'est par la force de Dieu qui agit puissamment en lui qu'il peut accomplir ce grand ministère. Comment allons-nous, nous, être en mesure de proclamer l'Évangile autour de nous à ceux que Dieu met sur notre route? Ça va être par la force de Dieu qui agit puissamment en nous. Comment allons-nous pouvoir, chacun d'entre nous, avancer vers la perfection qui est dans le Christ Jésus? Y pensez-vous à la perfection à laquelle le Seigneur vous appelle? Y travaillez-vous quotidiennement? Comment allons-nous pouvoir avancer vers ce but? Ça va être par la force de Dieu qui agit puissamment en nous. Comment allons-nous pouvoir vivre un amour qui triomphe de tous les obstacles? Ça va être par la force de Dieu qui agit en nous. Comment allons-nous pouvoir porter des fruits, plaire à Dieu à tout point de vue, comme Paul disait en Colossiens 1:10, portant toutes sortes de bons fruits, toutes sortes d'œuvres bonnes? Ça va être par la force de Dieu qui agit puissamment en nous. La réponse est toujours la même. Cette force de Dieu qui agit puissamment en nous nous rend en mesure d'accomplir notre vocation de chrétien. C'est un travail surhumain qui surpasse toutes les forces humaines. C'est pourquoi nous avons besoin de la force de Dieu. Et Dieu est bon, il nous promet de la donner à ceux qui la lui demandent. Alors demandons-lui constamment, « Seigneur, donne-moi ta force, revêt-moi de ta force, remplis-moi de ton esprit, donne-moi cette force dont j'ai besoin pour vivre selon ta volonté. » Avec plus de prière, nous aurons plus de force, parce que Dieu donne la force à ceux qui lui demandent dans la prière. Nous n'avons pas à nous en remettre à nos propres ressources dans notre vie chrétienne. Le slogan qu'on voit tout partout, « Confie-toi en toi-même », n'est pas un slogan approprié pour vivre la vie chrétienne. Le slogan approprié, c'est « Aie confiance en Dieu ». Aie confiance en Dieu. Cherche ta force en Dieu. Il va te la donner. Il donne la force à ceux qui lui demandent pour qu'ils puissent vivre selon sa volonté. En terminant, regardez bien au verset 29 le mot « combattant ». Un combattant. C'est un mot important dans l'Épître aux Colossiens qui va revenir à quelques reprises. Le mot grec est « agonizomenos ». D'où vient notre mot français « agoniser »? Agoniser, c'est être sur le point de mourir, n'est-ce pas? C'est vraiment être à l'extrême limite. Et on voit que l'apôtre Paul, ici, par ce mot, fait allusion au fait que son combat est un gros combat, un combat rude, sérieux, grand. Il va en parler à d'autres reprises dans son épître. Hein. Travailler pour le Seigneur est exigeant. C'est quelque chose qui demande beaucoup. Mais on peut se demander en conclusion, le Christ Jésus, l'espérance de la gloire, ne mérite-t-il pas nos meilleurs efforts pour le faire connaître et pour nous réjouir de plus en plus en lui? Christ, l'espérance de la gloire, ne mérite-t-il pas nos meilleurs efforts pour le faire connaître? Amen.